Bonjour mesdames, messieurs. Voici, nous allons donc continuer à nous interroger sur l'éventualité d'une double source à l'origine du zoroastrisme actuel en posant la question des différences éventuelles qui pourraient distinguer les deux volets de l'Avesta ancien, à savoir les Gata d'une part et le Yasnahaptankaiti d'autre part. Nous avions posé en gros les quelques différences qu'il est traditionnel de postuler pour le Yasnahaptankaiti et nous en étions venus, c'était là que nous nous étions interrompus la dernière fois, à nous interroger sur l'absence ou la présence de certaines notions dans un texte par rapport à l'autre, hein, des notions qui se trouvent dans les Gata, qui ne se trouvent pas dans le Yasnahaptankaiti. Ça peut toujours relever du hasard, mais nous allons devoir nous interroger aussi là-dessus. Pour les rédacteurs de l'Avesta récent, c'est d'ailleurs le signe qu'eux-mêmes s'interrogeaient sur cette question. La caractéristique essentielle du Yasnahaptankaiti, et qu'ils adoptent d'ailleurs, hein, c'est la notion de fravashi, donc définir le choix rituel initial par le terme fravashi plutôt que par le terme varana, comme dans les Gata. Et puis, le mouvement d'allégorisation qui fait de ce choix rituel une entité religieuse, une allégorie religieuse. Le deuxième trait du Yasnahaptankaiti pour les rédacteurs de l'Avesta récent, c'est évidemment le culte des eaux dont nous avons déjà souligné le problème tout très réel que ça nous pose puisque ça fait de ce culte le moment central du Yasna tout entier. Par contre, on s'est beaucoup moins interrogé sur un certain nombre d'absences, de notions absentes du Yasnahaptankaiti, et qui, dans les Gata, jouent un rôle important. Par exemple, la racine « sou », gonflée, hein, ce gonflement qui est mis en rapport avec la propagation de l'aurore, hein, l'aurore étant par nature la chose la plus impressionnante qui puisse gonfler, puisque commençant pratiquement par un point lumineux dans le ciel, elle finit par devenir le jour, et même parfois le jour à son zénith, et puis finalement le jour au zénith. Cette notion de gonflement que l'on retrouve dans le nom d'une force, qui est Savar, ce mot-là est absent du Yasnahaptankaiti. Et dès lors aussi, le participe présent du présent secondaire futur, ça va, la force, Saushiant, formé aussi sur Sou, et qui est le nom du prêtre une fois qu'un certain nombre de pratiques l'ont fait entrer dans la sacralité du sacrifice. Saushiant, il a bu une gorgée, c'est le prêtre qui a bu une gorgée de Hama dans l'Avesta récent, qui a prononcé la formule du choix rituel et un certain nombre d'autres formules, il a acquis sa personnalité sacrificielle, littéralement celui qui va gonfler. Donc celui qui va participer à cette propagation de l'aurore que représente la Daïna. Eh bien, ces notions-là sont absentes du Yasnahaptankaiti. Comme dérivée de sou, on trouve un emploi, mais qui rappelle fortement les emplois simplement du védique. Les dieux sont dits Yavaisu, ce sont ceux qui prospèrent, qui ont la force Sava pour l'éternité. C'est dit des dieux, simplement. Il n'y a aucun usage rituel du mot. Une chose intéressante aussi, qu'on n'a pas relevé et qui a peut-être son importance, c'est que la divinité Srausha, pas Srausha, c'est-à-dire l'incarnation des rumeurs du sacrifice, celui qui cherche à entendre et à se faire entendre, le dieu Srausha, est absent du Yasnahaptankaiti, et on peut se poser la question, j'y reviendrai à un moment donné, si ça n'entre pas aussi dans un cas de figure assez complexe. puisque je rappelle une chose un peu étonnante que nous avons constatée ensemble l'an dernier, c'est que le mot « srava », qui désigne peut-être l'hymne, peut-être la renommée, ou peut-être tout simplement le bruit que l'on fait en sacrifiant, eh bien, ce terme-là, curieusement, tout bien intégré qu'il soit dans le vocabulaire indo-iranien, un sanskrit shravas, eh bien, ce mot-là est essentiellement ahunavatique. Dans tout le corpus de l'Avesta ancien, on ne le trouve que dans la première gatha, ce qui est une situation un peu curieuse, mais qui peut aussi avoir une certaine importance du point de vue des nuances doctrinales internes à l'Avesta ancien. Autre chose que nous avons relevé à cause de ce que nous avons appelé la mise en genre des textes avestiques récents, c'est que si le Yasna Haptenkaiti est par son titre même, et nous allons voir que les auteurs même du Yasna Haptenkaiti en ont fait quelque chose d'important, eh bien, c'est un yasna, c'est un sacrifice, oui, mais l'autre volet, n'est-ce pas, l'interrogation des dieux par les sacrifiants et par celui qui les représente d'une certaine manière, Zarathoustra, c'est-à-dire la phrasa, les questions que l'on adresse aux dieux, eh bien ça, c'est un processus que l'on ne trouve pas non plus dans le yasna Haptenkaiti. Mais je voudrais maintenant, pour que nous puissions préciser ce dont nous sommes en train de discuter, que nous nous livrions, ça ce n'est pas un acquis des 20 dernières années, c'est quelque chose de nouveau, mais ça sert aussi à cela, n'est-ce pas, l'exposé que des recherches des 20 dernières années, que nous nous livrions à une comparaison entre le début de chaque strate textuelle de l'Avesta, à savoir pour l'Avesta ancien, le Yasna Haptenkaiti et les Gatha, et puis le Yasna récent. Nous aurons donc les trois strates, si vous le voulez bien. Alors, c'était en 2007, je crois, le cours 2006-2007, lorsque je l'ai consacré, entre autres, au Fravarané, le Yasna 12, pour lequel, comme je vous le rappelais la semaine dernière, Xavier Tremblay avait parlé de moyenne avestique, c'était son problème. Nous avions ensemble, la remarque était venue incidemment, remarquer que tout de même, nos trois strates textuelles de l'Avesta commençaient par l'évocation de la même notion, qui était liée d'ailleurs au nom de Fravashi. C'est dans le Yasna Haptenkaiti, Yasna 35.3, nous trouvons la forme verbale Varmaïdi, ce qui se traduit très clairement, nous choisissons, nous faisons le choix. Le Yasna 12, bien sûr, mais anticipé par la toute première phrase du Yasna, le Yasna 01, contient la formule Fravarane, c'est-à-dire je veux choisir, je m'applique à choisir. Donc la formule du choix rituel. Les Gatha apparemment échappent à cette observation, mais non, faisions-nous remarquer, ça n'est pas le cas, car nous devons considérer que le corpus gathique s'ouvre avec la prière Ahunavairia. On n'y trouve certes pas de verbe, mais on y trouve l'adjectif vario, ce qu'il faut choisir, qui doit être choisi, adjectif d'obligation, ce qu'il faut choisir. Voilà donc un trait commun que je voudrais approfondir aujourd'hui avec vous. Alors, nous allons commencer, parce que c'est toujours le plus indicatif, c'est ce qui nous fournit le plus grand nombre peut-être d'indices, par le texte le plus long, qui est celui du Yasna Haptenkaiti. Bon, je vous rappelle quelques petites données de base pour que vous vous rendiez bien compte que c'est véritablement le début et pas autre chose. Vous savez, nous avions fait le Yasna Haptenkaiti proprement parlé, le texte vieil avestique commence avec la deuxième période. Ce sont des périodes, c'est de la prose, parlons pas de strophes. Donc le Yasna 35.2 est véritablement la première strophe vieil avestique du texte. Le texte que vous avez devant vous, je me suis permis bien sûr de faire de ne pas le reproduire en entier pour ne retenir. Je n'évite pas les difficultés, c'est pas cela, mais pour ne retenir que les éléments les plus significatifs. Alors, nous trouvons littéralement ici la marque de fabrique du Yasna Rabtan Khaiti. Il a cette particularité par rapport au Gata d'exprimer la fameuse triade rituelle pensée, parole, acte, non pas par les termes abstraits manar, vachar, shautna, comme le fait exclusivement les Gata, mais par un adjectif plutôt qu'un participe, ce n'est pas une forme verbale, mais un adjectif passé, passif, en ta. Humata, ce qui a été bien pensé, ce qui a été bien dit, hukta, ce qui a été bien fait, huvarushta. Cette manière d'exprimer la triade par un adjectif passé, passif, c'est le propre du Yasna Rabtan Khaiti. Il le léguera très généreusement à l'Avesta récent, bien sûr. L'Avesta récent reprendra la pratique, et il reprendra la pratique d'une manière, d'ailleurs, qui est assez particulière, car littéralement, les trois mots, humata, hukta et huvarshta, sont un autre titre du Yasna Rabtan Khaiti. Lorsque le texte du Visprat nous parle d'un homme qui maîtrise le humata, hukta, huvarshta, il nous dit très exactement, c'est un homme qui a appris à réciter le Yasna Rabtan Khaiti. C'est un deuxième titre littéralement du texte. Donc, ça, c'est la pratique des exégètes de l'Avesta qui consiste à désigner très fréquemment un texte par ses premiers mots. Alors, c'est cette triade du comportement rituel qui occupe la première phrase. Donc, nous sommes ceux qui saluons, ceux qui faisons l'éloge d'une certaine manière, mais il y a quelque chose, une notation préliminaire dans Ibidjartar, c'est accueillir, n'est-ce pas ? Nous sommes ceux qui saluons la pensée qui a été bien pensée, la parole qui a été bien dite et l'acte qui a été bien fait. Or, le mot varmaïdi, donc c'est pour être exact dans l'analyse grammaticale, pour ceux d'entre vous que ces détails intéressent, je dirais que Varmaïdi est une première personne du pluriel de l'injonctif aoriste moyen. La première personne de l'injonctif aoriste, n'est-ce pas, c'est ce que l'on appelle le cas de coïncidence, c'est-à-dire nous choisissons la coïncidence, n'est-ce pas. Je vous le rappelle, c'est une belle distinction qu'avait faite Hoffmann, c'est sur la base de la grammaire turque. Bon, ce n'est donc pas, c'est un peu piquant, mais il fait la différence entre un présent et la coïncidence. Le présent, si quelqu'un vous demande ce que vous faites, vous répondez « je lis » ou « j'écoute un cours au Collège de France », vous dites ce que vous êtes en train de faire. Mais si le prêtre qui baptise un enfant dit « je te baptise », etc., le dire, c'est le faire. Le dire, c'est le faire. Ça, c'est le cas de coïncidence. Nous sommes dans un cas analogue, hein, Varmaïdi, nous choisissons. Hein, l'action que nous posons, c'est la phrase que nous prononçons, simplement. Eh bien, là, on n'a pas le présent, on n'a pas l'indicatif présent, on a l'injonctif aoriste, du moins en vieille avestique. Hein. Donc, nous ne devons pas traduire cet injonctif aoriste par un passé ou autre chose, mais simplement par un présent. Donc, voilà la formule du choix religieux. Or, regardons bien comment le texte se développe. Qu'est-ce qu'il faut choisir ? Que choisissons-nous ? Eh bien, dans le Yasna Rabtan Khaiti, on choisit la triade. On choisit la triade de la pensée, de la parole et de l'acte. Donc, la strophe qui précède avec le humata, c'est une anticipation sur ce qui va être fait. Et l'expression de ce choix, c'est une phrase complétive. Hein, tatiat, nous choisissons ceci que. Hein, nous choisissons que nous pensions, maini maidi, que nous disions, vaucho ima, et que nous fassions. Bon, donc on choisit la triade. Or, la triade, à quoi va-t-elle s'appliquer ? Eh bien, elle consiste, le terme est récurrent dans tout le texte, elle consiste à établir ce qui est vahishta, c'est-à-dire vahishta est le superlatif de vohu, bon, ce qui est le meilleur. Penser, donc on va penser ce qu'il y a de meilleur, prendre conscience de ce qu'il y a de meilleur, on va dire ce qu'il y a de meilleur et on va faire ce qu'il y a de meilleur. Donc voilà le champ d'application de la triade. En même temps, on va revenir sur chacun de ces termes, mais l'accent va être mis sur l'un d'entre eux. Et c'est ça peut-être qui a donné quelques illusions sur ce premier chapitre au premier commentateur du Yasna Haptankaiti, c'est-à-dire Johanan Arten d'abord, puis Eric Pirard et moi. N'est-ce pas ? Nous nous sommes exprimés de telle sorte que nous avons dit, attention, ici, le Yasna Haptankaiti, son premier chapitre, c'est une sorte d'introduction qui est un commentaire sur la notion d'acte, Shiautana. Non, ce n'est pas un commentaire sur la notion d'acte, nous sommes en train de l'établir. C'est un choix rituel, c'est le choix de la cible rituelle. Et l'acte est un élément de ce que l'on choisit, la triade, mais à l'intérieur de la triade, c'est le volet sur lequel l'accent est mis, car les deux strophes qui suivent, ils sont les deux strophes, les deux périodes, devrais-je dire, sont consacrées à cet acte. Non, nous devons donc penser, dire et faire ce qu'il y a de meilleur. Or, ce qu'il y a de meilleur, ici, est envisagé avec un datif. Il y a un datif, bon, très certainement, il est très difficile. Il y a un double datif. Il y a deux rangs de datifs, un double registre datif. Un est disposé en encerclement en survenant à la fin de la période 3 et à la fin de la période 8. Il clôture donc le développement sur le choix, d'une certaine manière. La première strophe et la dernière. Regardez ces deux derniers mots de ces deux périodes, Uboibia, Ahubia. Les deux Ahu. Donc, comme les Gata, le Yasna Haptankaiti possède la notion de Ahu. Notre habitude est de traduire Ahu, c'est un dérivé du verbe être, par l'état d'existence. Il y en a deux. Il y en a deux. Or, quels sont ces deux Ahu ? Eh bien, le Yasna Haptankaiti, nous pouvons en être sûrs, les définit. Il définit en quoi consistent ces deux états, respectivement, dans la période Yasna 42. Cet état-ci, ici, maintenant, c'est le démonstratif rapproché et celui de pensée. Et celui de pensée, dit-il. Donc, nous avons l'une des distinctions possibles qui est faite au moyen du terme Ahu dans les Gata, la même exactement, c'est-à-dire que les choses existent sous deux formes, existent sous deux aspects, l'aspect matériel, ça se dit Asvant, hein, Asvant en vieil avestique, ça veut dire osseux, et l'aspect de pensée, l'aspect mental, manarhya, manarhya. Je vous donne les deux termes. L'ahu est soit astvant, osseux, ou bien manarhya. On peut employer aussi, au lieu de manarhya, le génitif singulier du nom de la pensée, l'état de pensée, manangho. Donc, ce qui est le meilleur, d'une certaine façon, pour les deux états. Mais il y a l'autre série d'atifs qui, elle, avec chaque élément de la triade qui va être stipulé dans le reste, apparaît sous la forme d'un datif. Un datif distinct chaque fois. Au niveau de l'acte, ce qui est le meilleur par l'acte, l'acte le meilleur, il est gavoy. Datif singulier du nom de la vache, pour la vache, hein, le meilleur pour la vache. Donc, nous pouvons lire la période 4. Donc, à la vache, pour la vache, par ses actes. Je l'ai mis en parenthèse parce qu'il est possible que cette longue expression « Taïch, Xiaotanaïch, Yaïch, Vahishtaïch » ne fasse pas partie du texte original. Il est très probable qu'il s'agit d'une glose. L'acte n'étant représenté dans la phrase par simplement le pronom « Adaïch, Adaïch ». Mais c'est une situation que nous trouvons parfois dans le texte avestique. Le texte comporte parfois les gloses didactiques qui s'y sont glissées et très certainement, il a été un jour expliqué aux élèves par un professeur, n'est-ce pas, que Aïch, bah, il fallait comprendre qu'il s'agissait de l'acte. Et l'expression a été est restée introduite dans le texte même dans le texte même du Yasna Haptankaiti. Il y a un indice grammatical, vous savez, qui plaide pour ça. Je ne dis pas cela de façon arbitraire. Hein. C'est que nous avons une succession étrange de deux pronoms, Aïch et Taïch, et le premier est enclitique et le second ne l'est pas, il est tonique. L'ordre enclitique-tonique de deux pronoms qui se rapportent au même terme, cela c'est quelque chose qui n'existe pas en grammaire. Hein. C'est une véritable monstruosité grammaticale et c'est la raison pour laquelle j'ai formulé l'hypothèse de cette glose. Donc, nous pressons, nous incitons, et alors là, comprenez comme vous pourrez, je ne suis pas très à l'aise avec l'expression, je ne sais pas bien ce qu'il faut entendre par là, pourtant les termes sont très clairs, bien connus. Nous incitons ceux qui entendent et ceux qui n'entendent pas, ceux qui le peuvent, et ceux qui ne le peuvent pas, de donner à la vache, bien sûr, hein, le calme, la paix et la pâture. Vastra. Vastra est la notion de pâture. Alors, les autres éléments de la triade viendront plus tard. Ils viendront dans la période 7, n'est-ce pas, où ici, c'est le cadre de la pensée qui est envisagé, le verbe penser est amurmaïdi. Cette fois-ci, nous avons une forme augmentée, c'est donc un indicatif aoriste. L'indicatif aoriste, vous savez que je vous ai déjà exprimé, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que dans le système verbal du vieil avestique, l'augment est extrêmement rare. Nous avons ici un véritable indicatif aoriste, il faut que nous comprenions donc comme un passé récent. Un passé récent. Nous avons pris conscience. Hein, nous avons pris conscience. Le niveau de la pensée est exprimé de cette façon-là, par un passé récent. Nous avons pris conscience que la chose la meilleure, Vahishtam, c'était le sacrifice, Yasna, et le Varma, c'est-à-dire le chant d'adoration, Aurahya Mazdor, le génitif objectif, donc le yasna et la prière pour Ahura Mazda. Et puis, à nouveau, la pâture de la vache. La pâture de la vache. C'est une phrase qui fait donc intervenir le mot yasna. Le yasna Haptankaiti se présente très certainement lui-même par cette expression. C'est la première fois que l'on trouve cette clausule fréquente dans l'Avesta récent et qu'on ne trouve jamais dans les Gathas, c'est-à-dire l'association entre deux phases rituelles particulières, l'une étant le yasna, le sacrifice, donc le texte en Yasamaïdé. Il va venir deux chapitres plus tard, yasna 37, 38, 39, hein, donc troisième, quatrième et cinquième chapitre du yasna Haptankaiti. Et alors nous avons toutes les raisons de penser que le varma, c'est les deux chapitres qui suivent, à savoir les deux derniers, hein, le chapitre 40 et 41, qui est une sorte d'éloge et de demande, un mélange d'éloge et de demande adressé à Ahura Mazda. Ce n'est plus un texte en Yasamaïdé, ce n'est plus un yasna. Voilà, nous avons déjà deux manières. Le yasna Haptankaiti a bien sûr son titre, que l'Avesta récent nous donne, le sacrifice en sept chapitres, mais lui-même se donne ces deux désignations que nous venons de relever dans cette chapitre initial, hein, celui de ces trois premiers mots, le humata, hukta, varshta, et puis aussi l'assemblage coordonnées de Yasna et de Varma. Yasna Varmcha. Je vous rappelle que nous avons très certainement un problème ici de genre rituel qui doit servir à la distinction entre les gata et le yasna aptankaiti. Les gata ne font de yasna un usage extrêmement parcimonieux, mais nous avons vu pourquoi, ensemble, il y a 2 ans exactement. C'est-à-dire que le yasna correspond à une phase du rite, à une phase du rite qui, dans la gata hunavaiti, est une phase finale. Gata hunavaiti, le mot yasna apparaît parce que c'est le genre, c'est pas, qui correspond à ce moment du texte à partir du yasna 33.5. Le yasna 33.8, d'ailleurs, atteste le mot yasna. Et puis, le mot est attesté encore 2 fois dans le yasna 34, le dernier chapitre de la Hunavaiti Gata. Et nous avions établi ensemble, il y a 2 ans, que l'étude du vocabulaire rituel dans les gathas nous permettait de dire qu'il y avait dans chaque gatha un moment sacrificiel. Un moment sacrificiel. Tandis que dans le Yasna Aptankaiti, c'est littéralement le centre du texte, n'est-ce pas ? C'est la nature même du texte. Donc nous ne devons pas nous étonner de cette question. Donc, alors, le stade de la parole, période 8, excusez-moi, je dis Ada. Ada, c'est l'équivalent de ce verbe un peu étrange, n'est-ce pas, qui a une forme de parfait, c'est l'indien Aha. Je dis ou il dit. Il dit. Cette forme se conjugue avec les désinences du parfait, mais à un sens de présent. Et voilà d'ailleurs, je fais remarquer en passant, voilà une des 3 occurrences d'une forme de première personne du singulier. Il n'y en a que 3. Sinon, toutes les autres formes du yasna aptankaiti sont des formes de la première personne du pluriel, ce que nous avons relevé jusqu'ici, mais Ada, non, c'est une première personne du présent, quelle que soit l'interprétation que l'on donne à cela. Donc, ici, le bénéficiaire, oui, le bénéficiaire est Karmaichit, c'est-à-dire Karmaichit à chacun de ceux que l'on désigne comme Hant. Ce qui rend très probable que l'on s'adresse aux dieux, puisque le mot Hant signifie en quelque sorte ceux qui sont toujours les éternels. Donc, à chacun des Hant, je dis que la Jijisha, c'est un terme aptahatique, c'est une sorte aussi de phase rituelle que nous connaissons mal, mais qui ne survient que dans les gathas. C'est cela la meilleure des choses pour les 2 états d'existence. Et il est temps que je me corrige, que dans la strophe précédente consacrée à la pensée, le bénéficiaire était lui aussi relativement énigmatique, puisque si la meilleure des choses, c'est le yasna d'Ahura Mazda, pour Ahura Mazda, devons-nous dire, nous, pour être clair, hein, en français, le sacrifice d'Ahura Mazda, c'est un peu gênant. Mais le bénéficiaire, c'est le pronom personnel vœu de la 2e personne du pluriel, pour vous. Hein, comme si aux autres divinités auxquelles on s'adresse, on disait que le sacrifice qui est rendu nominalement à Ahura Mazda, c'est la meilleure chose pour tout le monde, hein, y compris pour vous, les autres dieux, sans doute. Donc le bénéficiaire est vœu. Voilà donc le commentaire que nous pouvons faire jusqu'ici avec les bénéficiaires. Le tri rituel porte sur la triade, et la triade doit donc définir ce qui est Vaishta. Mais pourquoi la triade, pourquoi chaque terme est-il Vaishta ? Eh bien, c'est parce que cette triade rituelle génère 2 choses. Elle génère 2 choses. Ce qui s'exprime remarquablement dans les strophes de pause, n'est-ce pas, où la triade s'estompe quelque peu, c'est-à-dire 4 et 5. Eh bien, elle génère d'abord la pâture pour la vache. ou l'effort pour donner une pâture à la vache. N'oublions pas hein, que nous nageons dans l'antiphrase. Hein, lorsqu'on parle de la pâture pour la vache, c'est une allusion, bien sûr, déguisée jusqu'à l'antiphrase, hein, pour le sacrifice sanglant. Non, la deuxième chose, c'est une autre notion qui apparaît donc finalement dans ce qui est la strophe centrale de ce premier chapitre, c'est que la triaque comportementale génère un pouvoir. Et le pouvoir, c'est kshatra. Et ce kshatra, on le donne, on l'attribue bien à celui qui va en faire le meilleur usage, ce qui exprime hukshatro temai. Il y a ici aussi un bénéficiaire, n'est-ce pas ? Bien le bénéficiaire du pouvoir produit par la triade, eh bien on le donne, on le réserve à celui qui en fait le meilleur usage, et on spécifie dans le dernier élément de la phrase qu'il s'agit de Mazda Ahura et d'Ashavahishta. À celui qui a le meilleur pouvoir, nous donnons, reconnaissons et activons le pouvoir, c'est-à-dire Ahura Mazda et le très bon agencement. Bon, alors, si vous voulez bien, nous allons nous résumer. Quelles sont les notions mises en œuvre dans formule du choix sacrificiel initial du Yasna Haptankaiti ? Eh bien, il y a la triade rituelle pensée, parole, action. Elle est fondamentale. Il y a la notion de ce qui est très bon, Vahishta, et qui doit caractériser chaque terme de la triade. Il y a un bénéficiaire global qui est l'ahu, ou plutôt les deux ahu, très exactement, celui du corps et celui de la pensée. Et puis, une série de bénéficiaires conjoncturels de chaque terme de la triade, parmi lesquels nous trouvons systématiquement la vache, gavoy. La vache qui est d'ailleurs associée au troisième terme de la triade, Shautana, spécialement. Ensuite, il y a la notion de kshatra. La triade rituelle produit du pouvoir. Il faut signaler ensuite que la phase ultérieure, celle du Yasna 36, le deuxième chapitre, celui que Narten, puis Pirard et moi avons considéré comme introductif, le chapitre 36, nous en avons beaucoup parlé l'an dernier, c'est le chapitre qui est consacré à la consécration du feu rituel. Donc, la phase consécutive au choix, c'est la consécration du feu rituel. Alors, je vous proposerai maintenant de comparer la situation du Yasna Haptankaiti avec celle que nous trouvons dans le Yasna récent. Donc, le Yasna récent, qui inclut bien sûr le Yasna Haptankaiti, a dû consister à répartir les phases rituelles que nous trouvons éventuellement dans les deux volets de l'Avesta ancien à l'intérieur d'un texte beaucoup plus développé, plus complexe, plus long, sur lequel il va falloir donc répartir, redistribuer l'ensemble des phases rituelles. Or, le choix rituel est aussi le moment du départ, du sacrifice. C'est le début, c'est l'entame du sacrifice. La toute première phrase, le Yasna 0, hein, car il y a un chapitre, traditionnellement un chapitre 0, est un fravarané, donc je choisis. Je veux choisir. Et ici, ce verbe choisir ne se construit pas avec une proposition complétive. C'est une autre structure syntaxique et se construit avec un nominatif. C'est-à-dire que c'est une construction en double nominatif. Le sujet, qui est je, n'est-ce pas, déclare ce qu'il choisit d'être, les caractéristiques qu'il entend avoir. Il y en a quatre, hein, qui se disposent d'ailleurs de façon intéressante en un double octosyllabe. Il se choisit, je me choisis, en tant que Mazdayasna, quelqu'un qui donne le sacrifice, qui réserve le sacrifice à Ahura Mazda. Donc quelqu'un qui sacrifie Ahura Mazda. C'est un Bahouvri, hein, simplement, si je traduis littéralement, c'est qui a le sacrifice de Ahura Mazda. Donc, je suis donc quelqu'un qui rend le sacrifice à, je choisis d'être quelqu'un qui rend le sacrifice à Ahura Mazda. Qui est Zarathoustri ? Zarathoustri, il faut comprendre chaque fois deux par deux, n'est-ce pas ? C'est la répartition en octosyllabes. Rendre le sacrifice à Mazda à la manière de Zarathoustra, comme Zarathoustra l'a fait. Hein, à la manière de Zarathoustra. Et alors, cela comporte l'élément, ici, nous ne sommes plus dans l'Iasna Abtenkaiti, nous sommes dans le Preisei Blame, lorsque l'on dit ce que l'on veut être, il faut aussi dire ce que l'on refuse d'être. Hein. Il faut louer et condamner. Donc, il faut nécessairement le pendant négatif. Alors, je suis Daiva, je suis adversaire des démons, l'adversaire des démons. Je suis en rupture avec les démons. Là, c'est la phase blame. Et Ahura Tkaisho dira, comme l'enseigne la doctrine d'Ahura, ayant la doctrine d'Ahura, Mazda, littéralement. Donc, je fais la traduction suivante qui est plus coulante. Évidemment, je fais le choix d'offrir le sacrifice à Ahura Mazda comme le fils Zarathoustra, de rompre avec les démons en professant la doctrine sur Ahura Mazda. Et alors, surtout, cette formule est assortie d'un datif de temps prospectif. Voilà une nuance importante que nous allons devoir commenter. C'est temps vu en prévision d'un ratou, c'est-à-dire d'un moment sacrificiel. Nous avons beaucoup parlé du terme. Et ce ratou, c'est un ratou qui est conforme à achat, l'agencement, c'est ce que le terme disent, mais surtout ce ratou doit être défini. Quel est le temps rituel que nous avons choisi pour rendre le sacrifice à Ahura Mazda ? Il faut le déclarer d'entrée de jeu en ouvrant le sacrifice. Hein ? Comme la plupart des manuscrits que nous possédons envisagent ce temps rituel-là, nous trouverons Havanehe, c'est ce qui se trouve dans l'édition de Dietner. Mais d'autres choix étaient possibles. Il y a 5 temps rituels possibles. Et certains manuscrits comporteront ici le moment Ushahina, c'est-à-dire le sacrifice pour le moment de l'aurore, le moment plus exactement qui, il faut comprendre, qui aboutit à l'aurore. Et donc ici, Havanehe, c'est le sacrifice matinal, depuis le lever du soleil jusqu'à midi. Hein. C'est le sacrifice matinal, sacrifice auroral, commence à minuit et s'achève au lever du soleil. Ce serait le sacrifice auroral. D'autres moments sont possibles, le sacrifice rapituina, le sacrifice de midi, le sacrifice de l'après-midi aussi, et aussi le sacrifice nocturne. Il y a 5 moments rituels possibles. Mais donc, la formule du choix englobe le choix du temps rituel, présenté dans la structure syntaxique comme un datif de temps prospectif. Or, autre ressemblance, autre point de convergence avec le Yasna Haptankaiti, la deuxième phrase, le Yasna 02, eh bien, c'est la constatation de la présence du feu. Nous n'aurons pas une longue consécration comme dans le Yasna Haptankaiti. Nous avons une très simple présentation. Voilà pour toi. Au feu, fils d'Ahura Mazda. Hein? Mais c'est tout de même l'évocation du feu rituel. Ce qui nous avait fourni, nous en avons déjà parlé ensemble, si dans tout l'Yasna récent, il n'y a pas de véritable consécration initiale du feu rituel, c'est peut-être simplement parce que on passe lentement à un feu permanent, tandis que la pratique des textes vieil avestiques consiste peut-être, comme dans la pratique des Védas, en un processus d'allumage du feu beaucoup plus complexe, qui exige par conséquent un certain temps et un certain volume de récitation rituelle. Tandis qu'ici, faire remarquer la présence du feu est certes un impératif, mais ça peut se faire très vite. Hein, ça peut se faire très vite. Il suffit d'une petite formule. De toute façon, vous voyez que c'est réduit. Hein. Mais nous avons des indications beaucoup plus grandes si nous nous reportons au texte complet du Fravaranais qui se trouve au Yasna 12. Alors, vous voyez qu'il faut d'abord commenter. Nous avons une répétition de ce que l'on appelle le petit Fravaranais, c'est-à-dire la formule du Yasna 01 au Yasna 11-16a. Ah oui, nous sommes en plein dans le premier secteur défini comme moyen avestique par Tremblay. Hein. Vous voyez que nous cernons à peu près cet endroit-là. Alors, il est très intéressant de voir, d'abord, Yasna 11-16, répétition du petit Fravaranais, et puis, Yasna 11-17, la formule concernant la triade. La formule concernant la triade, qui va nous rappeler, d'ailleurs, par ces termes, Humata, Hukta, Huvarshta, celle du Yasna Haptankaiti dans sa deuxième phrase. Donc, j'adresse un éloge préliminaire aux pensées que j'ai bien pensées, aux mots que j'ai bien dits et aux actes que j'ai bien faits. Vous voyez que le terme n'est pas le même. Hein. À Ibidjartar, je vous parlais lors de la dernière leçon sur le fait qu'il y avait non pas des divergences lexicales importantes, mais qu'il y avait des préférences terminologiques. Hein, propre au Yasna Haptankaiti et propre au Gata, qui laisse donc augurer qu'il ne s'agit pas d'un texte qui a exactement la même origine. C'est le même dialecte à très peu de choses près. Je vous ai signalé le seul trait divergent que l'on pouvait distinguer, un seul. Mais il y a des préférences terminologiques. Au lieu d'Aibidjar, hein, salué, nous avons Frastou, adressé un éloge préliminaire. La triade reviendra d'ailleurs à la fin du Fravaranais, dans le Yasna 12-8, où d'un éloge, je salue la pensée que j'ai bien pensée, je salue le mot que j'ai bien dit, je salue l'acte ou le geste que j'ai bien fait. Et je signale également que dès la deuxième strophe du Fravaranais, il y a évocation de la vache, puisque la deuxième phrase, immédiatement après le Yasna 12-1, c'est mon éloge, par un éloge, je débarrasse la vache de la rapine et du brigandage. Donc, la notion de vache. Alors, nous pouvons aussi nous résumer, après avoir scruter la formule du choix sacrificiel de l'Avesta récent, quelles sont les notions présentes? La triade, elle est là, même si ce n'est pas elle qui est l'objet du choix, mais c'est elle qui encadre la déclaration du choix. La notion de Vahishta, elle est là aussi, elle n'est pas d'une importance considérable, mais on la trouve dans le Yasna 12-1, où l'on, d'une manière ou d'une autre, l'on exprime le fait que c'est à Ahura Mazda qu'appartiennent toutes les choses qui sont Vahishta, qui sont très bonnes, qui sont les meilleures. Alors, le mot Ahu est absent ici, bien sûr, mais on trouvera aussi la vache, hein, Gaush, nous l'avons dans le Yasna 12-2. Nous trouvons donc la notion de pâture, nous trouvons la notion de sacrifice. Il y a aussi la phase consécutive qui concerne le feu. Nous trouvons ces éléments. Il y a quelque chose qui manque, mais je crois que c'est une absence conjoncturelle. C'est la notion de kshatra. On ne nous dit pas que ce choix a un rapport quelconque avec le kshatra. C'est une conjecture que je fais, n'est-ce pas? Mais je crois que cela a une raison. C'est lié d'une manière ou d'une autre à l'amplification du rite dans le Yasna récent. Le moment du Kshatra viendra, mais il est trop tôt pour l'Avesta récent. Le moment du Kshatra, c'est la récitation des deux dernières gathas, où la notion de Kshatra est d'abord inaugurale, puisque l'avant-dernière Kshatra a pour premier terme Vohu Kshatra, le Kshatra est bon. Et la dernière strophe de la dernière gatha, le Yasna 53, nous dit que le kshatra est vario, le kshatra est meilleur. Et les exégètes de l'Avesta récent, dans les citations du Visprat, ben, nous font très bien comprendre qu'il s'est passé quelque chose d'essentiel, c'est que le kshatra mis en œuvre, ben, de bon, il est devenu meilleur. Hein. Il y a donc eu un processus, n'est-ce pas, de valorisation du pouvoir. Mais c'est trop tôt, hein, pour le Fravarané de l'Avesta récent. Alors, pour compléter, bien sûr, la comparaison à laquelle nous livrons, je voudrais que nous regardions le texte de l'Ahunavairia, donc la première strophe du corpus gathique, où nous trouvons non pas un verbe construit sur la racine var, mais l'adjectif d'obligation vairio doit être choisi. C'est une strophe dont on a beaucoup discuté jusqu'à ce que sa structure syntaxique soit finalement reconnue par Duchesne d'Imain à partir de 1958, avec la confirmation ultérieure de Humbart, n'est-ce pas, et qui ne présente pas en réalité de grandes difficultés. Il y a simplement, pour éviter tout malentendu, bon, vous savez bien que ce sont des détails grammaticaux qui parfois paraissent perturbants, mais qui ne présentent pas de difficultés particulières. Tout est assez simple. Si nous ne devions compter dans cette strophe avec le phénomène d'accord avec le plus rapproché. Les verbes et les adjectifs s'accordent avec le plus rapproché, alors que le sujet est double. Il est coordonné. Il y a d'une part le ratu et le kshatra. Mais vairyo s'accorde avec ratu, qui est le plus rapproché. Le verbe dasda aussi, avec ratu, qui est le plus rapproché. Et le verbe dadat, de la proposition relative, s'accorde avec le sujet le plus rapproché, à savoir kshatra. Cela permet, n'est-ce pas, cet accord possible avec le plus rapproché permet à l'auteur de la strophe d'éviter le duel. C'est un fait d'observation simple, mais alors qu'il dispose du duel, il y en a même un peu dans les gathas, visiblement l'auteur des gathas n'aime pas le duel. Il l'évite quand c'est possible. Soit qu'il y supplée un pluriel, soit qu'il passe au singulier avec, en utilisant un procédé simple et empreint de régularité grammaticale qui est l'accord avec le plus rapproché. Alors, voulons-nous, si nous allons donc voir que, je vous lis simplement la traduction, tel qu'il doit être choisi par l'ahou, par l'état d'existence, le temps rituel, c'est-à-dire le ratu que nous trouvons dans l'Yasna récent, hein, adapté à l'agencement, et le pouvoir, le kshatra, des actes de l'état de bonne pensée sont donnés à Ahura Mazda, dont il, c'est-à-dire ce ratu et ce kshatra, ce temps rituel et ce pouvoir, feront de Mazda un padre pour les faibles. Alors, la strophe 28.1 nous servira à introduire éventuellement les notions qui nous manqueraient. Je me suis contenté de citer les termes que nous devons signaler, mais la traduction est complète. Alors, que trouvons-nous dans cette strophe que nous trouvons également dans le Yasna Haptangaiti et dans le Yasna récent? Eh bien, nous trouvons la triade. Elle est stylisée, mais vous voyez que le troisième terme, comme dans le Yasna Haptangaiti, le Shyautana, c'est-à-dire l'acte, est essentiel. C'est le terme qui est le plus visible, qui a le plus de visibilité. C'est le pouvoir des actes de l'état de pensée. C'est l'acte qui est mis en évidence. La pensée y est présente. La parole le sera dans la strophe 28.1. Yasa, forme spéciale de parole. La demande. Je demande. Je demande. J'ai mis une parole qui est une demande. Le terme « ahu » est présent, comme dans l'Yasna Haptangaiti. mais il est devenu l'instrument du choix. Il est devenu l'instrument du choix. Le kshatra est ici, hein, il est présent, comme dans l'Yasna Haptankaiti, et il est le produit de la triade, comme dans l'Yasna Haptankaiti. Nous avons une situation analogue. C'est le pouvoir des actes. La pâture de la vache, ben, le terme pâture se trouve dans l'Avunavairaya, ce n'est pas la pâture, c'est le pâtre, hein, Vastar, le nom d'agent, celui qui fait paître, Vastra, normalement un terme d'instrument, le soin de pâture, le pâtre, ça ne s'applique pas à la vache, mais la vache est évoquée dans la strophe 28.1 consécutive, puisqu'il est question du don de l'âme de la vache. Hein. Donc les choses se trouvent là-bas. Le feu est subséquent, puisque nous avons supputé sa présence l'an dernier dans cette expression contournée, mais qui est le début du faste Manyu, puisque le feu est assimilé au Manyu d'Ahura Mazda. Et il est donc, nous avons formulé l'hypothèse que le début du Spantamarinu, c'est l'allumage du feu. Donc la phase consécutive est elle aussi présente. Le terme yasna, nous savons à quoi nous en tenir, nous l'avons commenté. Il n'y a pas de terme vahishta proprement parlé, mais le terme vahu, vankaj, se trouve aussi ici. Alors, je voudrais conclure maintenant avec vous de ceci, n'est-ce pas, sur le du point de vue des distinctions, de la distinction que nous pouvons faire entre les différentes strates de l'Avesta. Il y a des absences que j'estimerais, je vais dire, conjoncturelles. Vous savez, Vaishta, Vuhu, lieu de Vaishta. Nous avons vu que le Kshatra, bon, on lui assigne une autre phase rituelle, une autre phase rituelle, dans le cadre de l'Avesta récent, comme on donne une autre place au Yasna aussi dans le rite des Gathas. Ce ne sont pas là, ce sont des glissements à l'intérieur d'un processus liturgique. Ce ne sont pas véritablement des différences. Mais ce qui me paraît frappant, et je voudrais conclure par là, parce que c'est peut-être le caractère essentiel, peut-être, de la différence entre le Yasna Haptankaiti et les Gathas. Il y a tout de même un grand absent. Et ce grand absent, c'est dans le Yasna Haptankaiti qu'il se trouve. Parce que ça place littéralement la clé de voûte des formules du Yasna récent et de l'Ahunavaya. C'est le Moratu. Le temps rituel. Le Moratu n'est pas attesté dans le Yasna Haptankaiti. Jamais, n'est-ce pas ? Jamais. Or, c'est la base du choix dans le Yasna récent et dans les Gathas, n'est-ce pas ? Ce que l'on choisit tout d'abord, que ce soit en prévision, pas soit présenté comme une prévision dans le Yasna récent, mais c'est littéralement la base du choix dans la formule de la Ahunavairaya, c'est le choix du temps rituel. C'est le choix du temps rituel. Et cela, le Yasna Haptankaiti n'en fait pas la moindre mention. Le terme Ahu, qui est toujours associé à Ratu, cela mérite aussi un commentaire. Ça mérite un commentaire parce que le terme Ahu, dans le Yasna Haptankaiti, il fonctionne sur un seul registre. C'est l'opposition entre un état et un autre état. L'état corporel, l'état du corps, l'état asdvant, et l'état de pensée. Cela, c'est un registre que les Gathas connaissent aussi. Elles font la même distinction. Il y a un double ahu pour les Gathas. Asdvant, manahya, les termes sont les mêmes. Mais il y a deux autres registres. L'ahu, il peut y avoir aussi opposition entre un ahu premier et un ahu second. Ça ne recouvre pas la distinction osseux mental. C'est autre chose. C'est l'état d'existence. Cet état d'existence-là, ben, il est complémentaire du ratu. C'est l'état d'existence qui caractérise un temps rituel particulier. Hein. C'est l'état des choses durant la matinée, durant la phase du soleil ascendant. Ça, c'est le premier état. Ou l'état des choses second, c'est-à-dire durant la phase du soleil déclinant. C'est le deuxième registre. Il y a un troisième registre, c'est le registre, je dirais, final que nous avons parlé. C'est selon la réussite ou l'échec du sacrifice. Les bons réussissent, bien sûr, leur sacrifice. Les méchants échouent. Eh bien, cet Ahou devient pour les uns achishta, très mauvais, pour les uns, et il devient, par contre, fracha, hein, c'est-à-dire parfait pour ceux qui ont réussi. Donc, il y a trois registres d'un double Ahou, hein, osseux mental, premier, second, très mauvais, parfait. Hein. Le Yasna Hamdakaiti ne connaît qu'un seul, n'est-ce pas ? Il ne connaît qu'un seul, c'est l'opposition, l'opposition osseux mental. Alors, voilà peut-être la différence essentielle. Peut-être que le sacrifice, pas du Yasna Abtankhaiti, est un sacrifice sans ratou, c'est-à-dire un sacrifice que l'on fait quand on veut, sans aucune liaison avec un moment donné de la journée. Il semble que ce soit une opposition que l'on connaisse aussi, n'est-ce pas, dans les textes védiques où certains prêtres sont urdvich, c'est-à-dire qu'ils sacrifient à un moment bien précis du cours du temps, hein, et les autres sont ushich, c'est-à-dire qu'ils sacrifient quand ils veulent. Hein. C'est une opposition que l'on retrouvera dans la pratique sacrificielle. Il est possible que... Ben, le Yasna Haptankaiti, c'est un sacrifice, oui, mais sans temps rituel. Alors, comment voir dans... Là, je crois que nous détenons peut-être ce qu'il y a d'essentiel, car ça nous permet d'expliquer beaucoup de choses. Ça nous permet d'expliquer, par exemple, l'importance accordée aux eaux. Ça, c'est la possibilité éventuelle de réinsertion. Je nage pas présent dans la conjecture, je ne peux rien faire d'autre, excusez-moi, mais j'essaye de donner des éléments d'explication. Quelle était la possibilité, n'est-ce pas, de rattacher le Yasna Haptankaiti au processus de sacrifice selon le Hurtu, selon le cours du temps? Eh bien, justement, en créant pour lui un ratou, pas, en lui donnant un ratou. Or, si les gathas connaissent trois temps rituels, le matin, le midi, le soir, elle les mentionne dans le Yasna 44. Il y en a cinq dans la Vesta récente, deux de plus, le matinal et l'après-midi. Eh bien, les eaux sont les divinités de l'après-midi. Pas, les eaux sont les divinités de l'après-midi dans le Yasna récent. Donc, on a pu fabriquer un ratou pour le Yasna Haptankaiti. Et ça, les eaux le permettaient, pas le culte des eaux le permettait. Le problème du ratou matinal, c'est un autre problème, parce que ça fait intervenir la personnalité de Mitra. C'est autre chose. Mais ça reste une énigme que nous n'aurons pas résolue, n'est-ce pas ? Je ne crois pas. Nous manquons d'éléments de réflexion. Et alors, vous voyez, les autres, voilà une différence, un problème que pose le Yasna Haptankaiti, que l'absence de ratou permet peut-être d'éclairer. L'absence de Zarathustra aussi, n'est-ce pas, c'est tout de même intéressant, il faut le noter. Zarathustra, il existe dans l'Avesta récent pour deux actions bien définies, et pour ces deux actions-là seulement, particulièrement importante, bien sûr, mais essentielle. Pourquoi est-il magnifié dans l'Avesta récent ? Parce qu'il a conduit les démons se cacher sous terre en récitant l'Ahuna Vairya. En récitant l'Ahuna Vairya. Naturellement, il n'y a pas d'Ahuna Vairya dans l'Yasna Haptankaiti, ça va de soi, mais s'il n'y a pas d'Ahuna Vairya dans le Yasna Haptankaiti, par la force des choses, il n'y a pas non plus de ratou. Hein. Il n'y a pas non plus de ratou. L'Ahuna Vairya est la formule même du ratou. Cette action-là de Zarathustra est impensable dans le cadre du Yasna Haptankaiti. Deuxième fait essentiel, Zarathustra est le protagoniste par excellence des entretiens avec Ahura Mazda. Il est le seul, pas le seul, et depuis toujours, depuis la cosmogonie même, qui n'ait cessé d'interroger Ahura Mazda. Fras, la Frasa. Il est le protagoniste par excellence de la Frasa. Il n'y a pas de Frasa dans le Yasna. C'est un Yasna pur. Donc, les deux actions qui fondent le prestige prophétique de Zarathoustra dans la perception qu'en a la Vesta récente sont deux notions absentes du Yasna Haptagaiti. C'est la notion d'interrogatoire et la notion de temps rituel. Alors, voilà, peut-être que nous tenons là, effectivement, la profonde distinction et que l'unité de l'Avesta ancien qu'a tenté de forger, comme nous l'avons vu la dernière fois, la période moyen-avestique, n'est-ce pas, elle a peut-être consisté justement à prendre au Yasna Haptankaiti ce qu'il avait. Hein. Ce qu'il avait, c'est la notion de Fravashi et c'est le culte des eaux. À lui prêter ce qu'il n'avait pas, c'est-à-dire le dieu Srausha, la notion de gonflement dans la personnalité des prêtres et la personne de Zarathoustra. Et cela en forgeant un quatrième temps rituel complétant les trois temps rituels des Gata, le Ratout l'après-midi. Alors, je terminerai sur cette conclusion. C'est une hypothèse que je formule devant vous, simplement sur simplement l'existence de ces deux traditions distinctes, bien sûr, mais finalement synthétisées aux origines du mazdéisme. Merci.